Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je t'accompagne dans tes réflexions sur ton activité professionnelle indépendante. Et cette semaine, on va justement se parler d'une forme de business à laquelle tu n'as peut-être pas encore réfléchi. Classiquement, on considère que le freelancing se base sur une activité de service. Tu vends ton temps avec ton fameux TJM, le taux journalier moyen, et tu exécutes une mission particulière, une demande particulière pour tes clients dans ce temps-là. Mais c'est pas le fonctionnement du business de tous les indépendants. C'est une forme parmi d'autres, et dans l'épisode du jour, j'accueille justement quelqu'un avec qui on va explorer une autre forme, les médias business. Et ce quelqu'un s'appelle Lila Louise Maréchaux. Et juste avant de lancer la discussion avec Lila Louise, je voulais te dire quelques mots pour t'expliquer tout ça, t'expliquer qu'est-ce que j'entends par média business. L'idée de cette forme d'activité, c'est que la brique principale du modèle, c'est la création de contenu pour une catégorie de personnes particulières qu'on appelle une audience. Comme si tu devenais un média très spécialisé, en quelque sorte. Et certaines personnes, comme Lila Louise et moi-même, concentrent cette brique média sur un podcast. Pour d'autres, c'est concentré sur une chaîne YouTube avec des vidéos. Pour d'autres encore, c'est un blog avec des articles très réguliers sur un sujet, etc. Bref, on a déjà parlé de la création de contenu sur ce podcast, donc tu vois de quoi il s'agit. Mais ce qui est intéressant avec cette appellation média business, c'est la question qui vient ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour transformer cette brique média et donc l'attention de l'audience qu'on cherche à développer en un business qu'on peut monétiser? Ce qui marche pour les freelances, c'est souvent de créer du contenu, ce qui nous aide à vendre davantage nos services ou à monter notre TJM, etc. Mais il y a d'innombrables autres formes de monétisation qui existent une fois qu'on a cette brique centrale qui est le média, qui est le contenu. On peut faire du sponsoring avec des partenaires. On peut faire de la publicité, que ce soit de la publicité sur un site ou sur des chaînes YouTube ou sur un podcast, un peu à la forme de l'influence, entre guillemets. On peut devenir formateur sur les sujets qu'on traite dans nos médias. On peut devenir speaker, faire payer ses conférences. On peut vendre les formations des autres en étant affilié et donc on a une part des ventes quand on vend. Bref, il y a plein de modèles à explorer, potentiellement conciliés, mixés ensemble, qui font du coup partie de la vie d'un média business. Et du coup, mon invitée, Lia Louise, de son côté, elle développe une marque qui s'appelle Fleur d'Avocat, dans laquelle elle est seule, selon ce modèle du média business. Au cœur de son quotidien, un podcast du même nom, Fleur d'Avocat, des articles, une newsletter et d'autres formes de contenu. Et du coup, par derrière cette brique média, il y a des briques de formation, qu'elle a d'abord exécutées en présentiel, et aujourd'hui qu'elle exécute en numérique, et plein d'autres projets qu'elle a en tête pour la suite, pour se mettre pleinement au service des gens qu'elle a envie d'aider, les avocats. Et du coup, dans cet épisode, dans notre conversation du jour, avec Lila Louise, on t'emmène en coulisses de la création au développement d'un média business, en traitant de tous les enjeux qui accompagnent cette forme particulière d'activité indépendante. Et peut-être que toi aussi, tu pourras réfléchir à ça. Comment est-ce que tu peux transformer ton activité grâce à cette réflexion du média business? Je te laisse d'abord écouter l'épisode et on se retrouve tous les deux à la fin pour en parler un peu. Bonne écoute. Bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Lila Louise.
Bonjour Thomas, merci pour l'invitation.
Je suis ravi d'être là. J'avais un petit souvenir dont je voulais te parler avant qu'on commence à discuter.
Vas-y.
Je me souviens d'une newsletter que j'avais écrite sur... je sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était un truc genre la force des communautés, des audiences et tout. Et je me souviens juste de ta réponse, t'avais répondu à un truc, mais comment tu sais qu'on n'a pas déjà une audience? Et t'avais juste mis cette phrase-là, et je me souviens de cette réponse, et c'est un peu la première fois du coup où j'étais allé voir ton travail et Fleur d'Avocat et toutes ces choses-là, quoi.
La meuf,
c'est un peu le début de la discussion. Ouais, moi, ça m'a fait, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, elle a raison. Je ne sais pas, en fait.
Non, mais tu sais, c'est le truc avec les newsletters et du coup, tu t'adresses aux gens et tu interpelles en assumant, enfin, il y a une formulation dans les interpellations. Et puis, en fait, parfois, tu lis la newsletter et t'as envie de dire, ouais, enfin, désolé, mais je suis pas concernée.
Ouais, grave. Voilà. Mais c'est difficile, hein.
Ouais, c'est difficile.
Moi, j'arrive à un stade avec la newsletter aussi où je me pose la question de comment je fais pour que chaque mail que chacun reçoit, ce soit sur mesure pour leurs enjeux. Du coup, il y a des sujets de segmentation et tout, mais ça devient hyper complexe et ça demande presque de créer encore plus de contenu. Du coup, je réfléchis à fond à ça pour 2021, mais vrai sujet. Hein.
Ouais, vrai sujet.
Vrai sujet. Bah, c'est cool, on part direct sur un des sujets dont on allait peut-être parler dans l'épisode,
ah
mais
bah,
on va
écoute,
backtrack.
Ouais, voilà, je te laisse.
Backtrack un peu. On backtrack un peu pour commencer par la question rituelle pour que les gens découvrent un peu le début de ton aventure, même si dans l'intro j'ai déjà parlé un peu de ce que tu fais. Mais la première question, du coup, comme d'habitude, Lila Louise, comment, mais je suis surtout intéressée par pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, j'étais avocate en droit pharmaceutique, j'étais collaboratrice en cabinet, j'ai fait deux collaborations, et puis il se trouve que je ne m'y suis pas trop retrouvée. Et donc, j'ai entamé une réflexion de reconversion que j'ai faite notamment en faisant le programme Fais le bilan calmement de Switch Collective, que tu connais peut-être,
ouais.
qui m'a bien orientée vers le milieu des RH. J'ai fait aussi un bilan de compétences classiques en parallèle. Et ça m'a orientée vers le milieu de la RH. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de mener une réflexion autour du bien-être au travail. Ce qui m'avait interpellée, en fait, c'est que moi, quand j'étais avocate, autour de moi, je voyais très peu d'avocats de mon expérience, mais aussi des avocats plus expérimentés, apparaître épanouis dans l'exercice de leur profession. Mmh. Et en parallèle, il se trouve que j'écoutais pas mal de podcasts avec des personnes qui parlaient de leur vie professionnelle avec plutôt enthousiasme et joie. Et donc, je me suis dit, mais... on n'entend jamais d'avocat, enfin tu vois, un truc un peu autour du modèle en fait. Et donc en partant vers les ressources humaines, je me suis dit, bah tiens, et si je faisais un podcast où j'interview des avocats épanouis pour comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'ils sont épanouis, déjà voir si ça existe et puis ensuite comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont épanouis. Et donc mélanger en fait ce vers quoi j'allais, donc le monde des ressources humaines, avec le monde d'où je venais, c'est-à-dire le monde des avocats. Et, mais je partais pas du tout pour être freelance, c'est-à-dire que moi, à ce stade-là, je pensais que j'allais faire une petite pause, me former. Je me suis inscrite à j'étais prise à un master de ressources humaines à Sciences Po, me former et puis ensuite intégrer un cabinet de conseil en management ou en RH, tu vois, comme consultante ou autre. Et, et donc, le pourquoi, donc, je te l'ai exposé, et le comment, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard parce que c'était pas prévu et que. Voilà, j'ai fait ce podcast, j'avais toujours dans l'optique de rejoindre un cabinet de conseil en management et en ou en RH, enfin un truc comme ça. Et puis en fait, il se trouve que l'audience s'est créée et qu'ensuite j'ai eu d'autres idées et que je me suis dit, bah tiens, allons-y quoi. Mais voilà.
C'est à quel moment du coup, où... est-ce que tu as un souvenir du switch où tu te dis, genre est-ce que tu te vois te dire, ok, cabinet de conseil, non, c'est fini et je vais continuer de développer ce truc. Je sais pas si tu as un souvenir précis d'un truc comme ça.
Écoute, je me souviens d'une session de coaching que j'ai faite, effectivement, ça devait être... Enfin non, en fait, je me souviens pas, parce que je me souviens de quand j'ai commencé à me dire « Ah mais tiens, Fleur d'Avocat, le nom de mon podcast, ça pourrait être une marque pour une entreprise. » Mais pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de truc un peu où je me disais que j'allais pouvoir développer les deux. C'est-à-dire développer Fleur d'Avocat et quand même trouver un travail quelque part. Et puis en fait, est-ce que je n'ai pas la capacité de travail suffisante pour faire les deux, ou est-ce que je sais pas, mais effectivement, il y a un moment où j'ai lâché cette idée de trouver du taf et je me suis dit, bah voilà. À ce stade-là, j'avais déjà eu l'idée de la formation, de la première formation, bien dans ma robe, et donc je me suis dit, bah non, enfin voilà, essayons d'en faire quelque chose. Et voilà. Donc, effectivement, j'ai pas de souvenir précis de, il faudrait que je reprenne mes enregistrements de session de coaching pour te dire, mais voilà.
Bah, je sais pas s'il y a un moment qui nous fait switcher. C'est sûrement un cumul de plein de petits signaux qui font qu'à un moment donné, bah, voilà, ça devient clair, ce truc-là. Mais j'étais curieux parce que je comprends que, tu vois, un sujet dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est le côté media business. Ouais. C'est un peu plein de formes qu'on voit et c'est un truc dont on discute tous les deux beaucoup, parce que c'est le modèle vers lequel on tend de plus en plus. Mais c'est marrant, du coup, de voir que c'était pas du tout ta vision au début et que, bah, le podcast, tu l'as lancé plus par envie d'exploration, ce genre de choses, quoi.
Ouais, tout à fait. C'était une envie d'exploration et je me suis jamais dit que ça pouvait être un travail. D'ailleurs, en fait, tu vois, tu me demandes comment et pourquoi je suis devenue freelance, enfin que je suis devenue indépendante. Je me perçois pas, enfin, je crois que je me suis jamais perçue comme indépendante. C'est-à-dire que je me suis perçue comme en transition pendant très longtemps. J'ai mis très longtemps à assumer que mon projet, c'était, enfin, tu vois, que c'était pas juste un side project et que ça pouvait être un contenu professionnel en tant que tel. Je pense que pendant très longtemps, j'avais encore cette idée que le travail, c'était travailler pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je me percevais pas comme pouvant immédiatement entreprendre moi. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à entreprendre vraiment avec Fleur d'Avocat et en passant à la formation, là aussi, je crois que je me suis jamais perçue comme freelance, tu vois. Je me suis tout de suite perçue, pour le coup, comme entreprise. Mais c'est très paradoxal ce que je suis en train de te dire parce que, à la fois, j'ai mis très longtemps à me percevoir comme entrepreneuse et donc à avoir une réflexion autour du secteur d'activité auquel je me raccrochais, de ce que j'avais à apprendre comme entrepreneuse, tu vois. Je pense que j'ai très longtemps été dans le déni un peu de ce que je faisais et de ce que j'entreprenais et de ce que ça pouvait être et comment est-ce que ça pouvait se transformer en une activité économique, en fait.
Hyper intéressant.
Et je te dis ça parce que tu vois, maintenant j'ai une formation sur le développement de clientèle pour les avocats et notamment pour les jeunes avocats qui veulent développer ou ceux qui s'installent juste, tu vois. Et je me dis, mais moi, j'ai pas fait ce genre de formation. Et je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps à le faire. Et je pense que si je ne l'ai pas fait, J'étais très naïve, c'est-à-dire que moi, l'infopreneuriat, tu vois, j'étais pas du tout consciente que c'était un secteur en tant que tel, qu'il y avait tout cet écosystème de formateurs et tout. Et en fait, je pense vraiment que si je n'ai pas fait ce genre de démarche, ce genre de formation, c'est parce que je ne me percevais pas comme telle. Je ne me percevais pas comme une entrepreneuse. Je me percevais pas non plus comme une infopreneuse. Je sais même pas si je me perçois encore comme une infopreneuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce truc un peu de qui suis-je et voilà.
Ah ben c'est hyper intéressant. Et je pense que ça a un impact majeur qu'on mesure pas. En gros, ce que j'entends là, c'est l'identité qu'on se donne à nous-mêmes. Genre, effectivement, si tu te dis, genre, je me mets à l'extérieur et je regarde ce que je suis en train de faire,
Ouais.
comment je définis le ça. Et je pense que il y a beaucoup de freelance qui se considèrent donc être freelance, qui du coup s'enferment presque dans, ben non, moi, je fais ça. Et le ça, c'est genre le métier que tu faisais avant quand tu étais salarié ou le métier qu'on t'a appris à l'école. Et du coup, tu te dis, bah non, moi, je peux que faire ça et on me paye pour ça et je vais tant de temps dans une boîte ou avec un client faire ça. Et je pense effectivement que ça limite beaucoup. Tu vois, quand on se colle des identités comme ça, on passe à côté de plein de trucs autour, d'autres choses de, ah ben tiens, je pourrais intégrer ça à ce que je fais. Ah tiens, je pourrais avoir, comme tu disais, un regard peut-être plus poussé et profond sur le sujet sur lequel je travaille ou l'écosystème dans lequel je rentre. Et du coup, c'est marrant, je pensais pas qu'on partirait direct sur ça, mais je pense que c'est un vrai rôle, ce truc de l'identité qu'on se donne.
Ouais, c'est un vrai rôle. J'ai envie de dire dans les deux sens. Je suis quand même juriste de formation et tu sais, chez les juristes, on aime bien qualifier la réalité. Il y a ce truc où tu assignes une étiquette à une certaine réalité et cette étiquette, elle permet de dérouler en fait toute la réglementation applicable à cette activité. Voilà. Et je trouve que le fait d'arriver à définir une situation, donc à lui donner une étiquette, à la faire rentrer dans une case. Ça te permet aussi assez clairement de te dire, ah ben tiens, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est de l'entrepreneuriat. Et donc, ben, comme je rentre dans une, enfin, voilà, comme ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat, il y a des formations, il y a des obligations, il y a des, tu vois, et du coup, d'avoir un espèce de panel assez exhaustif de, ben, finalement, qu'est-ce qui t'incombe comme entrepreneur? Il t'incombe de faire vivre ton activité économique et donc de te former au marketing, à la communication, à des problématiques de gestion plus comptable, tu vois, tout ça. Et à la fois, effectivement, je te rejoins sur le fait que, à l'inverse, cette qualification, si on la prend trop strictement, eh bien, elle devient là un empêchement parce que finalement, ça devient des bornes. Et pour parler plus d'un secteur, du secteur que je connais bien et le mieux, qui sont les avocats. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats, par exemple, qui se perçoivent trop comme avocats et pas assez comme entrepreneurs. Alors qu'un avocat qui développe sa clientèle, enfin voilà, je veux dire, c'est pas un commerçant, parce que les avocats peuvent pas avoir d'activité commerciale d'un point de vue déontologique, mais ça reste la vente d'une prestation et donc, d'une certaine manière, de l'entreprise. Et le fait de pas se percevoir comme tel, potentiellement, ça les limite sur toute la créativité qu'ils peuvent amener dans leur manière de se développer, dans les activités qu'ils peuvent proposer dans le cadre des services qu'ils offrent, etc., etc. Donc, effectivement, tu vois, à manier cette histoire d'étiquette et de qualification, parce que je pense que quand même une définition claire de qui on est, de ce qu'on fait à un instant T, toujours à redéfinir.
Ça aide à naviguer, quoi.
Ça aide à se repérer et à se raccrocher à plein de choses et voilà. Et à la fois, ne pas non plus laisser que ça te limite et rester ouvert à toutes les autres formes d'influence. Voilà.
Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Et ça me fait penser à, il y a un truc que dans les derniers mois que j'avais bien, bien creusé, c'est les modèles mentaux. C'est en gros, des systèmes de réflexion que tu utilises pour telle ou telle problématique qui te permet d'avoir des angles de réflexion. Et un truc que j'ai compris avec ça aussi, c'est que tous ces modèles mentaux, et d'ailleurs, il y en a un qui est expliqué pour partager cette réflexion, c'est des simplifications de la réalité qui est hyper complexe pour te permettre de naviguer dedans, mais ça représente pas 100% de la réalité du coup. Et il y en a un qui s'appelle, qui dit « The map is not the territory », la carte n'est pas le territoire, qui dit en gros, une carte routière, par exemple, pour qu'elle soit utile, elle ne peut pas représenter tout ce qui se passe sur la route. Genre, si tu mettais chaque arbre, chaque buisson, chaque muret, ta carte routière, elle sert à rien. Et donc, pour qu'elle soit utile, faut que ce soit une simplification de la réalité, mais c'est pas la réalité. Et j'ai l'impression que du coup, c'est un peu la même chose. Pour que ce soit utile pour toi,
faut que tu te dises, bah, je suis là, ok, on est infopreneur. Et du coup, on doit se former et comprendre toutes les choses qui sont inhérentes à l'infopreneuriat. Mais il n'y a pas que ça, quoi.
Ouais.
On est plein d'autres choses et on est beaucoup plus complexe.
Exactement.
Du coup, ouais, plutôt intéressant, ça. À partir de quand, du coup, parce que justement, tu disais, ça veut dire se former au marketing, à la communication et ainsi de suite. Toi qui viens du background avocat et juridique et ainsi de suite, c'était quoi un peu les premiers pas dans ce nouveau monde de « Ok, ben maintenant que je suis entrepreneuse, infopreneuse, il faut que j'exploite mon contenu et le podcast que je fais, il faut que je passe à une brique, plus je communique sur ce que je suis en train de mettre en place et ainsi de suite. » C'était quoi tes premiers pas un peu business entre guillemets, quoi?
Bah, je pense que j'ai regardé toutes les conférences de The Family, tu vois, le cliché, quoi. Le cliché, et puis j'ai commencé à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, et surtout des podcasts, mais aussi un petit peu YouTube, mais plus podcasts, autour de la communication et du marketing. Je t'ai écouté toi, j'ai écouté Alexis Minkela, Tribu Indé, et puis j'ai écouté aussi, tu vois, AARRR appliqué de Yann Leonardi, ouais. Enfin voilà, des contenus pour m'aider à un peu mieux naviguer dans tout ça. C'est vrai que, en fait, tu vois, c'est marrant, et ça, c'est des trucs de télescopage d'agenda d'une certaine manière, mais moi, comme je me percevais comme quelqu'un qui allait plutôt se former au RH pour intégrer un cabinet ou, tu vois, développer un poste en RH, je me suis inscrite à Sciences Po exécutive en RH, donc c'était beaucoup d'argent. ouais. Et puis en fait, enfin, c'était une année extrêmement enrichissante et j'ai appris plein de choses super et j'ai rencontré des personnes formidables, etc. Mais finalement, en fait, le contenu de cette formation me sert pas vraiment pour ce que je fais aujourd'hui. Enfin, si, parce que j'y ai été formée à la systémie, à l'approche systémique, à la sociologie des organisations. Et en fait, ça m'a complètement bouleversée. Et du coup, j'ai intégré cette approche dans une de mes formations. Et puis, dans ma manière de vivre l'entrepreneuriat en général. Mais, parce que c'est un modèle mental, ça aussi. Mais ouais. Donc si ça m'a été utile, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas là que j'ai appris les compétences dont j'ai besoin comme entrepreneuse. Mais du coup, tu vois, ton budget formation, il est un peu passé là-dedans. Et donc mais potentiellement, j'aurais, tu vois, encore une fois, si je devais me donner ce conseil à moi-même, ce serait peut-être plus, enfin, je veux pas anticiper sur une question plus tard, mais ce serait peut-être plus d'assumer plutôt ça et de me former de manière plus encadrée, en fait, à ces sujets-là. Mais oui, ça a surtout été, en fait, de la consommation de plein de contenus autour de l'entrepreneuriat, etc. Et puis d'essayer de communiquer progressivement sur ce que je fais, et d'exploiter la valeur que je crée au fur et à mesure, tu vois, avec les premières formations.
Ouais.
Et tout ça, mais voilà.
Ouais, c'est intéressant ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est le moment où tu passes de je crée ce podcast, j'apporte de la valeur par les interviews que je fais avec les avocats, et forcément t'as des gens qui t'écoutent et qui aiment ce que tu fais et qui te suivent, et qu'on appelle ça du coup l'audience entre guillemets. C'était quoi tes réflexions, genre, est-ce que t'as souvenir de tes premières réflexions de ok, maintenant il faut que je fasse de ça un business, qui sont les réflexions que j'ai eues avec ce podcast, que d'autres créateurs ont eu par le passé avec leur chaîne YouTube, avec des newsletters, des articles, des choses comme ça, où tu te dis, là, je crée une information qui a de la valeur et il faut que je continue d'aller plus loin avec ça, quoi. Parce qu'il y a plein de manières d'y réfléchir et tu aurais très bien pu te dire, bah non, comme tu disais, ça reste à côté et c'est le side project. Mais je suis curieux de savoir, c'était quoi tes premières réflexions de qu'est-ce que j'en fais de tout ça?
Ben, en fait, ça a été assez rapide, puisque finalement, j'ai lancé le podcast début novembre 2018. Et puis, l'idée de la première formation vient dans ma robe. Je me souviens que j'ai commencé à en parler. J'avais un ami américain qui était venu me rendre visite à Paris. Et je me souviens qu'entre Noël et Nouvel An, je lui disais... je pourrais faire une formation... Enfin, je commence à comprendre un peu que tous ces avocats épanouis que j'interviewe, mais tu vois, j'avais une dizaine d'interviews derrière moi, quoi. Que ces avocats épanouis que j'interviewe, ils ont un peu tous des mêmes réflexes de finalement de développement personnel. Hein. Et c'est pas que les avocats, j'ai envie de dire, c'est les gens en général. Mais ouais. Voilà, appliqué aux avocats. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais en faire une formation. Et donc c'était assez rapidement, tu vois. Après, enfin c'était 2-3 mois. Ouais, c'était 2 mois. Puis c'est cette idée. Et puis c'est en janvier, donc 3 mois plus tard, que je me suis dit, bon, je vais vraiment le faire. Tu vois, ça va pas juste être une idée. Donc ça c'est l'inconscience du, je sais pas, du naïf. Et et donc finalement c'était une manière de se dire, ben ce matériau, comment, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je le valorise en une activité qui peut être une activité économique, puisque l'idée c'était de dire, les leçons issues du podcast, je les transforme en une formation pour que les personnes qui écoutent le podcast puissent à leur tour travailler sur elle de façon à se créer un exercice professionnel de la profession d'avocat qui leur convienne.
Ce que je trouve que c'est intéressant que tu aies eu cette première réflexion de passer direct sur la forme formation, et je pense que ça vient du fait que tu avais commencé par la partie média, parce qu'il y a beaucoup d'autres indépendants qui commencent directement par bah, je me lance et je fais une forme de service. On fait... comme on disait tout à l'heure, le métier que je faisais avant, et je le fais à mon compte sous forme de service, et du coup on est dans la relation temps vs argent, et je facture ça. Et ensuite, qui commence à réfléchir à, bah, du coup, pour toucher plus de gens et me focaliser sur mon truc et parler de moi, ce que j'aime, bah, là je rajoute la brique média après. Et du coup, je me demande à quel point notre réflexion elle est différente en fonction de par où on commence et de quelle forme de monétisation on imagine, parce que le service est une forme de monétisation, la formation en ligne en est une autre. On pourrait se dire que tu aurais pu faire du sponsoring, ça se trouve.
Bah, j'allais te demander, qu'est-ce que enfin, tu vois, par rapport à ce que je faisais à l'époque. Donc, j'étais plus avocate et j'avais pas envie d'exercer comme avocate. Ouais. Qu'est-ce que tu m'aurais vu proposer comme service tu vois.
Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Est-ce que moi, c'est pas juste je faisais quelque chose sous la forme du salariat et je le fais sous une forme de l'indépendance, ce qui aurait été le cas, par exemple, si j'avais quitté ma collaboration pour m'installer à mon compte
en tant qu'avocate,
en tant qu'avocate autonome et aller chercher mes propres clients comme avocate autonome. Alors que moi, j'ai quitté une profession et donc un certain savoir-faire et une certaine expertise. Et puis, c'est pas que je savais rien faire, mais je savais faire plein de choses. Mais en tout cas, rien que je m'imagine vraiment vendre, en fait. Donc, ouais. Du coup, tu vois, et puis même, tu vois, je pense que je me suis même pas posé la question de. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment perçue comme freelance, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des missions de freelancing. Moi, j'ai l'impression d'indépendante, pardon. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, d'avoir tout de suite, sans même m'en rendre compte, construit une marque, tu vois.
Ouais.
Et ensuite, de m'être dit, ben, à quoi est-ce que cette marque peut servir. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais... Et tu vois, finalement, ça m'a amené... Enfin, cette histoire de formation, c'était une idée qui a fait que je suis devenue formatrice. mais même aujourd'hui, j'ai vachement de mal à me percevoir comme formatrice. Enfin, il se trouve que je forme, ça fait partie des choses que je fais. Mais je pense que mon vrai métier avec Fleur d'Avocat, c'est surtout comment est-ce que je pense l'activité et comment est-ce que je la projette. Et il se trouve qu'il faut que je passe par la case du faire. Mais j'ai toujours une espèce de décalage entre ce que je fais et ce que je vois pour mon activité. Parce que, voilà, je ne sais pas trop si je réponds à ta question, mais...
On est en exploration, de toute façon.
Ouais.
Mais c'est bien que tu viennes sur ça, parce qu'effectivement... tu vois, il y a plein de postures qu'on peut avoir dans cette forme-là de info-business, média-business, où on construit une brique média, où on crée du contenu. Je sais que tu as aussi ta newsletter, tes articles, ton podcast. Et ensuite, on rajoute des briques de monétisation qui passent souvent par la formation. Et on a eu cette discussion parce que bah, la formation dont tu parlais tout à l'heure, développement de clientèle, tu as invité d'autres créateurs à venir participer, co-construire avec toi, proposer des modules différents.
Ouais.
Effectivement, elle est intéressante, cette posture de se dire, toi, tu as créé le cadre pour, et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont venir apprendre des compétences aux gens qui te suivent. Alors que tu vois, dans mon cas, j'ai pas fait ça encore pour l'instant. Ouais. Et c'est moi le formateur, entre guillemets.
Ouais.
Et les gens viennent aussi pour moi, et j'ai construit ça autour de ma marque personnelle, tu vois. Toi, ta marque, c'est Fleur d'Avocat. Moi, la mienne, c'est Thomas Burbidge. Et du coup, c'est pas la même démarche, j'ai l'impression, et je trouve ça hyper intéressant de voir que, bah, encore une fois, là, il y a une diversité d'approches.
Ouais, mais alors, tu vois, enfin, il y a plein de sujets dans ce que tu viens de dire qui sont des sujets qui me turlupinent. Effectivement, du coup, c'est avec cette histoire de formation et d'être formateur. La première formation, je l'ai faite, moi, de A à Z toute seule. Alors, j'ai fait intervenir une naturopathe, Cécile Pétureau, que j'ai aussi interviewée sur mon podcast, qui est une ancienne avocate pour toute une partie sur la gestion du stress. Mais sinon, c'est vrai que je me suis retrouvée moi-même à développer un contenu. Mais en fait... tu vois, le premier module, c'est sur comment est-ce qu'on est proactif dans son activité et dans sa vie professionnelle. Et en fait, chaque chapitre, je l'adosse à un autre expert, quoi. Je mets une vidéo TED, j'ai pas du tout peur de venir afficher les sources. Je considère que j'ai rien inventé de tous les messages que je transmets. J'en fais juste une sorte de synthèse. Et du coup, je me vois plus comme un intermédiaire, en fait, entre tous ces contenus et puis les mes clients. Et puis le deuxième module, c'est sur l'analyse de son environnement professionnel. Et là, effectivement, j'ai repris ce que j'ai appris à Sciences Po en matière de systémie, d'approche systémique, de sociologie des organisations. Et là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus difficile de trouver des contenus sur Internet qui soient facilement consommables pour réfléchir sur ces questions-là. Donc, du coup, les contenus sont moins apparents, mais dans l'absolu, encore une fois, ça a juste été cette transmission-là. Et le troisième module sur la communication, là, c'est pareil, je suis allée chercher dans beaucoup de livres, etc. Enfin bon, bref, je me suis auto-formée à plein de sujets pour les retransmettre ensuite à mes clients. Et ensuite, mes clients m'ont dit « Ah, mais c'est sympa tout ça, mais pour faire ce que tu dis dans la formation, il faut avoir confiance en soi. » Donc, deux choses. Mes clients me disaient « Ben, pour faire ce que tu nous demandes de faire, enfin, ce que tu nous invites à faire, pour communiquer, pour négocier, pour faire ci, pour faire ça, pour s'affirmer dans son projet pro et tout, il faut avoir vachement confiance en soi. » Donc, ça, c'est un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'était des clients qui s'affirmaient au cours de la formation dans une envie de prendre leur indépendance, c'est-à-dire de quitter le cabinet dans lequel ils exercent en qualité de collaborateur pour développer leur propre clientèle personnelle. Et donc, comment je fais ? Et ça a été la porte ouverte vers deux nouvelles formations complémentaires, c'est-à-dire une formation sur la confiance en soi et une formation sur le développement de clientèle. Mais vu le temps et l'énergie que ça m'avait pris déjà de développer cette première formation, parce que moi, je suis pas... Enfin, tu vois, j'ai pas fait de formation en coaching. Enfin, je veux dire, je me suis auto-formée à tout ça. Ça prend un temps dingue, tu vois, d'aller lire tous ces contenus, de les digérer, ouais. De les reconfigurer pour que ensuite, voilà. Je me suis dit, bon, en fait, je vais pas pouvoir faire ça toute seule. Je vais pas pouvoir être la tête de toute cette transmission. Et donc, il faut que je travaille en collaboration avec des personnes qui, elles, sont expertes de ces sujets. Et donc, la formation sur la confiance en soi, je l'ai créée avec une coach ancienne avocate aussi qui s'appelle Lamia Mzebla. Il se trouve que c'est une formation qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai fonctionné, tu vois. Je suis allée la chercher en me disant, ben elle est coach, et donc et cela étant, c'est, enfin, et je dis pas ça juste pour cette formation avec elle, mais c'est intéressant parce que en fait, coach et formateur, c'est pas le même métier, et ça je m'en suis rendu compte après. Mais tout ça pour dire que je suis allée chercher des personnes en extérieur en me disant, bah ces personnes-là ont l'expertise, et donc je vais construire les formations avec elles. Et c'est comme ça que la formation sur le développement de clientèle, et ben c'est pareil. Je me suis dit, moi je suis pas une marketeuse de formation. J'ai jamais fait de marketing, si ce n'est pour ma propre boîte et de manière complètement, alors pas de manière complètement naïve, parce que comme je te disais, je me suis quand même beaucoup auto-formée avec plein de contenus, etc., etc. Mais voilà, c'est pas mon métier, et donc j'ai préféré en fait me dire, ben je vais aller appeler des personnes qui, elles, ont cette expertise, qui ont développé ça pour des clients, qui ont la méthodologie. Et ça rejoint aussi une question autour de la légitimité. C'est-à-dire que c'est un mélange entre la légitimité et un mélange entre le gain de temps et d'énergie par rapport au fait de moi tout faire toute seule, quoi. Et qui, encore une fois, comme je me perçois pas, comme je me perçois plus comme la porteuse de la vision de Fleur d'Avocat que comme la formatrice, eh bien, il se trouve que ça me va.
C'est
ça
dans ce sens que
ça me va complètement, ouais, de te faire monter dans la formation parce que tu t'occupes du module sur la construction d'une offre de service. Pareil pour Alexis Minkela sur tout ce qui est web marketing. Pareil pour Éric Legendre sur tout ce qui est réseautage efficace. Insa Felassini sur tout ce qui est négociation de rémunération et de rétrocession d'honoraires. En fait, moi, ça me paraît complètement. Ça me paraît logique, tu vois, de faire monter des personnes qui cassées la tête à produire cette expertise et à la rendre transformable déjà, quoi.
Ouais, mais il y a deux trucs que je trouve hyper intéressants dans ce que tu dis et que j'ai envie de souligner. Le premier, c'est effectivement... Enfin, même trois trucs. Le premier, c'est... Tu disais tout à l'heure que t'as rien inventé et tu repackages des choses. Et je pense que c'est effectivement... un de nos rôles principaux quand on est dans ce segment ou cette nouvelle forme, nouvelle, je sais même pas si c'est nouveau, c'est pas tant nouveau, mais dans cette forme un peu média-business, forme business de l'information, c'est qu'en gros, à mon sens, notre rôle, c'est aller chercher des informations de plein d'endroits différents et les re-rendre consommables et utiles aux gens pour qui on a envie de s'engager. Toi, c'est les avocats, et du coup, tu vas chercher toutes ces choses, tu les repackages parfois avec d'autres personnes pour le faire, et moi j'ai, tu vois, c'est ce que j'aime faire au quotidien, et ouais. C'est pour ça que je trouve ça tellement passionnant. C'est moi, ce que j'aime faire, c'est lire plein de livres, regarder plein de trucs, m'intéresser à des sujets ultra vastes et variés et différents, et me demander, ok, ça, comment c'est au service de quelqu'un qui développe un business indépendant, comment ça, ouais, ça lui sert, et de mélanger ces trucs là et ça me fait penser, je sais pas si tu connais cette vidéo Everything's a Remix, qui montre qu'en gros toutes les grandes créations de l'humanité, en fait, c'est des remixes de créations qui avaient déjà été faites et qui ont juste été adaptées à la personne, quoi.
Ouais.
Et on est tout le temps en train de faire ça. On est tout le temps en train de faire ça. Pareil, moi, j'invente rien. Peut-être que je recrée des schémas qui font passer un truc dans un sens différent. Mais en fait, c'est du savoir qui existait déjà parce que ça fait des milliers d'années qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à tout ça. Et,
ouais.
Et je pense que ça nous... Tu vois, ça fait du bien de se dire ça. Parce que moi, je me sens pas en mode « Ah, il faut absolument que j'invente des trucs complètement nouveaux et tout. » C'est juste, je suis un messager de choses qui existent déjà pour une certaine catégorie de personnes. Et mon taf, c'est de le rendre consommable, utile, et de créer une relation avec ces personnes qui font qu'elles l'implémentent pour de vrai, quoi.
Ouais.
Et toi, c'est pareil avec les avocats, finalement.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Et puis, comme toi, tu vois, c'est marrant parce que sur Instagram, récemment, suite à la question d'une auditrice, j'ai partagé plein de podcasts que j'écoute régulièrement. Et elle me dit, mais où est-ce que tu trouves le temps d'écouter tout ça, tu vois? Et moi, je suis là, mais... Enfin, en fait, c'est aussi un peu devenu mon travail, quoi. Tu vois, moi, c'est aussi devenu mon travail que de lire tous ces livres et d'écouter tous ces podcasts et de les utiliser, de les réintégrer pour produire du contenu qui va amener les gens à réfléchir, à travailler sur eux d'une manière qui les porte dans leur activité. Donc je te rejoins complètement là-dessus, c'est-à-dire le faire. Mais tu vois, pour autant, ça prend tellement de temps que quand bien même j'aime faire ça, et c'est ce qui m'aide du coup à identifier les bonnes personnes, parce que résultat en fait de toute cette consommation, je retire aussi la capacité à identifier des personnes qui seront pertinentes par rapport au projet que je veux construire. Mais quand même ça prend vachement de temps d'intégrer, de digérer, de reconfigurer, etc. Et donc c'est pour ça que moi, contrairement à toi, je me pose plus comme une personne qui va rassembler cette communauté autour de la contribution à une marque et à un certain public, plutôt que dans quelque chose de très in situ personnel. Ce qui m'amène à, parce que t'avais dit que tu voulais souligner trois trucs, mais je sais pas
je
si tu as encore les deux autres
en
trucs. Ok, parce que ça m'amène à, je l'avais oublié, mais t'as dit tout à l'heure, toi c'est Fleur d'Avocat et moi c'est Thomas Burbidge. Et c'est très drôle parce que tu vois, c'est un sujet sur lequel un des sujets sur lesquels je réfléchis en ce moment, c'est quel est le lien entre Lila Louise Maréchaux et Fleur d'Avocat. Et notamment parce que moi, j'ai l'impression de beaucoup construire fleur d'avocat. Et c'est sûrement vrai. Et d'un autre côté, pour le moment, je suis quand même, tu vois, beaucoup à la tête du truc. Et il y a des personnes qui m'appellent fleur. Et puis, il y a d'autres personnes qui... il y a des personnes qui m'appellent fleur, il y a des personnes qui m'appellent fleur d'avocat, et donc et puis il y a d'autres personnes qui identifient plus Lila Louise Machaud. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de truc un peu flou.
Ah, c'est intéressant.
Et voilà, et c'est je pense que je suis de plus en plus à l'aise avec la part que prend ma boîte par rapport à moi et vice versa, la part que je suis dans ma boîte. Mais pour le coup, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une distinction entre ma personne privée et ma personne morale. Enfin, la personne morale qui est fleur d'avocat. Oui, non, ouais. Et puis même, enfin voilà, tout ça n'est pas encore très clair dans la tête parce que je te dis, ça fait partie des choses. Mais il y a ce truc quand même autour de, tu vois, je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus, quoi. C'est-à-dire que quand un business est autant porté par toi comme personne, ouais. Et en plus d'une forme qui fait que tu donnes beaucoup de toi, parce que moi je donne beaucoup de moi dans les interviews que je fais, je donne de moi dans la newsletter, enfin tu vois, je partage des trucs vraiment sur mes réflexions personnelles et parfois avec pas mal de beaucoup de sincérité et parfois je me dis mais je dois en dire trop et tout, et de telle façon que mine de rien je mets beaucoup de moi dans les interviews. Et je pense pareil quand j'ai l'honneur d'être invitée sur les médias d'autres personnes, j'essaye d'y aller avec beaucoup de sincérité et à la fois ça fait un peu flipper sur la part qui reste à, tu vois, à ton intimité et tout. Et voilà, et il se trouve que j'ai eu la semaine dernière un peu un télescopage, une apparence de télescopage entre ma vie privée et ma vie pro, et ça m'a fait méga flipper, tu vois, genre j'ai méga flippé parce que voilà, je pense que c'était sur ce truc entre la distinction qu'est-ce qui me reste d'intimité et voilà, bref.
Ouais, mais c'est intéressant comme réflexion parce que clairement ça fait presque partie du truc aussi quand tu deviens la personne qui crée de la formation et qui fait le podcast et tout. Moi, il y a des gens qui me disent, quand je discute avec eux pour la première fois, ils me disent, moi, je te connais, mais toi, tu me connais pas encore.
Ah, mais c'est exactement
ça. Et c'est un peu ça, tu vois.
Ouais, t'as une personne qui te dit, et sinon, t'as fini tel livre, et toi, t'es là, genre, et il se trouve que t'as parlé de ce livre dans une interview il y a pas longtemps, et t'es un peu là, genre, tout va bien, tu vois.
Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Moi, tu vois, genre, en fait, moi, je me positionne avec tout ce que je fais un peu comme, l'explorateur, dans le sens où j'ai toujours eu cette sensation de je vais au-devant de toutes les expériences qu'on peut vivre quand on est indépendant, etc., et je veux les expérimenter. Et ensuite, je me retourne et je dis voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai appris, voilà comment vous pouvez en bénéficier pour construire pour vous. Et du coup, dans ce sens, tu vois, ça fait partie de ma posture de tout ce que je traverse, et même autant dans le monde extérieur, des résultats que j'ai eu, de mon monde intérieur, de mes doutes, de mes peurs, de mes questionnements, de mes réflexions, de tout ça, ça fait partie en fait de ce que j'ai envie d'enseigner et de ce que j'ai envie d'intégrer dans mes pédagogies. Et du coup, effectivement, moi, ça a toujours été assez naturel finalement, d'autant plus que, comme tu le dis, il y a des newsletters où je parle beaucoup de ça dans mes interviews aussi, la mort de mon père. Je fais une newsletter 2-3 jours après la mort de mon grand-père cette année en février, où je partageais des choses dessus avec les gens qui me suivent. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça fait partie de ce que je dois porter, en fait. Ça fait partie de ce que je peux, et presque même de ce que je dois, entre guillemets, offrir aux gens qui me suivent, parce que ça fait partie du chemin. Et c'est intéressant parce que je sais et je sens que ça me permet d'avoir un lien beaucoup plus profond avec les gens parce qu'on parle de tout ça. Et en vrai, tu vois, c'est pas des relations formateurs-clients. Moi, je prends vraiment ça au sens communauté, et j'ai envie que tous mes clients, tous les gens qui viennent en formation ou qui écoutent le podcast ou quoi que ce soit, je puisse partir en vacances avec eux et partager des moments et être vraiment deux êtres humains qui avancent ensemble.
Ah non, mais tu.
Mais c'est vrai que c'est perturbant, tu vois.
Ah non, mais tu es au cœur de ma réflexion du moment. C'est-à-dire que la newsletter qui va partir ce soir pendant qu'on sera en train de discuter, c'est sur cette relation client-prestataire. Parce que il se trouve que j'ai partagé une réflexion issue d'un groupe de co-développement d'une de mes clientes dans ma newsletter d'il y a deux semaines. Et elle a réagi à cette newsletter en me disant, j'ai lu ta dernière newsletter et j'ai été choquée par le fait que tu utilises le mot cliente. Mais enfin, tu vois, il se trouve que c'était en bien, tu vois. Elle dit, en fait, ouais. Tu as complètement, tu es la magie de ce que tu fais, c'est que tu as réussi à complètement gommer la relation client-prestataire de nos relations. L'aspect mercantile disparaît au profit des objectifs poursuivis et de l'humain et de notre accompagnement comme personne. Et je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que ce qui me lie à mon audience et ce qui fait que j'ai une très bonne qualité de lien en fait avec mon audience, c'est effectivement que je donne autant de moi. Je suis comme toi. Moi, j'ai aussi partagé sur des choses difficiles de ma vie. Tu vois, je me suis faite interviewer pour que mon audience me connaisse plus. Et c'est un truc où tous les deux jours, j'ai envie de supprimer cet épisode de la toile où à la fin de l'épisode, je finis en pleurs parce que j'évoque le décès de mon frère. Enfin, tu vois, bon, bref. Et c'est voilà, c'est je pense que c'est des choses qui me permettent de créer ce lien d'être dans cette transparence et dans cette sincérité et dans cette vulnérabilité. Mais parfois, et il se trouve que voilà, là la semaine dernière la situation s'est présentée, je me prends un gros truc où je me dis mais attends, en fait, est-ce que je fais pas juste une grosse connerie? Et tu vois, pour en revenir à ce mail de cette cliente sur la disparition, enfin l'effacement du lien prestataire-client entre nous. Et je pense qu'elle le disait comme un vrai compliment, tu vois, sur la qualité de ouais. l'accompagnement et enfin voilà. Et je pense qu'en réalité, ça parle surtout de l'équilibre de notre relation, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas besoin de se rattacher. Ah mais tu me dois ceci parce que je t'ai payé pour, tu vois, on n'est pas liés là-dedans. En revanche, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça veut pas dire que je suis trop friendly, tu vois? Est-ce que je suis pas trop sympa? Est-ce que je suis pas trop proche? Est-ce que tout ça n'est pas trop horizontal? Est-ce que je devrais pas mettre un peu plus de barrières finalement? Voilà. Bon, pour le moment, j'ai pas particulièrement changé ma manière d'être. La preuve en est la manière dont je te parle aujourd'hui dans cette interview. Mais c'est vrai que ça fait quand même partie des questions qui se posent je pense que j'imagine que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Il y a peut-être des personnes qui ont une capacité à être dans le secret et dans le mystère qui est plus grande, et elles font de cette capacité à être finalement très mystérieux, très privé, une sorte de personnage aussi, et une sorte de, c'est aussi quelque chose qu'elles vendent d'une certaine manière, donc c'est là où après tout il y a pas forcément à choisir entre un truc et l'autre, et plus à voir c'est comment clair. Est-ce qu'on est à l'aise avec ce que soit on partage, et
bah, ça rattrape les deux autres trucs sur lesquels j'avais envie de rebondir tout à l'heure.
Quelle transition parfaite.
La transition est parfaite. Non préparée en plus. Non, le deuxième c'était tu vois, moi, je sens que le fait que je sois tellement à l'aise et aligné et OK avec cette transparence-là, et il y a des choses que j'ai jamais partagées et j'aimerais arriver au stade de les partager, donc aller encore plus loin là-dedans, c'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment la sensation, et c'est presque même spirituel comme réflexion, de mon rôle, j'ai trouvé les gens que j'ai vraiment envie de servir. Et j'aime plus l'intonation de l'anglais de « to serve someone » que le français « être au service d'eux
ouais. »,
qui, j'ai l'impression, peut paraître un peu négatif, entre guillemets, mais je sens vraiment que les gens de mon audience, les indépendants, les personnes qui prennent cette aventure à bras-le-cœur de se dire « j'ai envie de lancer mon propre truc, de construire et réfléchir à ma vie pour que mon travail soit aligné avec tout ça et plus qu'il y ait la séparation de « il y a le pro, il y a le perso », etc., tout ça », j'ai l'impression que, genre, je me mets vraiment en posture de service. Et du coup, toute la part qui me regarde moi, de moi face à moi, en train de se préoccuper de mes propres petits problèmes, en fait, elle disparaît derrière ce truc de mon rôle, c'est d'être là pour les servir. Et OK, ça me fait peur. OK, il y a des trucs où je me dis, ah, tiens. Mais en fait, si je regarde ça, je suis que en train de me regarder moi et pas le plus gros, plus grosse mission que j'ai choisie ou qu'on m'a donnée en fonction de notre regard.
Oui.
Et du coup, je sens vraiment que je suis là, tu vois. Et du coup, ça fait que je suis hyper à l'aise.
Ouais.
Et je sens que toi aussi, c'est un truc où tout ce que tu fais, t'as vraiment envie de servir ces gens parce que ces gens, c'est qui t'étais avant et c'est des personnes qui t'inspirent et qui sont importantes pour toi et que t'as cet élan de service aussi. Donc, je me demande quel rôle ça joue pour toi aussi dans cette réflexion.
Oui, je pense qu'effectivement, je me pose beaucoup cette question de être au service d'eux. Et peut-être que je me pose pas assez la question inverse. Ça fait un peu partie aussi des trucs sur lesquels je bosse. Mais effectivement, et c'est sûr que quand tu pars sur cette question de comment est-ce que je peux être au service d'eux, et si une des manières d'être au service d'eux, ben c'est de partager comme je le fais, ou d'être en lien comme je le fais, eh bien, franchement, pourquoi pas pourquoi pas. Mais voilà, là, pour le coup, j'ai pas encore abouti ma réflexion. Je pense que ouais. Je suis à l'aise avec ce dialogue entre Fleur d'Avocat, Lila Louise Maréchaux, Lila... Non, mais tu vois, mais c'est des trucs... Enfin, par exemple, il y a des interviews, je fais de plus en plus les interviews chez moi. Et donc, moi, j'ai perdu le lien... Enfin, mon salon, je ne vis plus mon salon comme un espace privé, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est devenu un espace public, d'une certaine manière. C'est devenu un bureau. Mais voilà, tu vois, et quid de cette frontière ?
Ouais,
donc, du coup, quand t'as quelqu'un... Là, c'est le confinement, je devrais pas dire ça, mais... j'ai quelqu'un du milieu pro qui est venu chez moi dans le cadre du confinement et enfin je veux dire en temps normal on serait allé dans un café et en fait là c'était chez moi et donc bah tu vois c'est hyper flou, c'est-à-dire mais du coup est-ce qu'on est chez Lila Louise, est-ce qu'on est chez Lila Louise Maréchaux, est-ce qu'on est chez Lila Louise Maréchaux de Fleur d'Avocat, enfin tu vois désolé ça fait un peu schizo mais et du coup comment tu vois quelle est cette imbrication quoi et qu'est-ce que tu protèges et comment quelle posture tu vois du coup comme c'est quelqu'un de du milieu professionnel dans l'échange tu es là bah du coup je peux pas mais c'est pas une interview donc je peux pas être dans l'échange comme si j'étais dans l'interview mais enfin tu vois des trucs voilà, désolé, c'est très prise de tête, tout ce que je suis en train de te dire. J'ai l'impression d'être Gollum.
Non, mais c'est...
Tu sais, d'être Gollum avec son truc en mode...
Smeagol.
Ouais, exactement. Qui se demande si les autres sont gentils ou sont méchants et voilà, mais bon...
Ouais. Mais ça fait partie de... Enfin, je pense que ça fait partie de toutes les réflexions qu'on a nécessairement dans cette forme de business-là. Et je pense que ça rejoint du coup le troisième point qui est... la vision qu'on en a et où est-ce qu'on veut aller avec. Avant de commencer l'enregistrement, on en parlait un peu tous les deux de c'est quoi la prochaine étape. Moi, j'ai commencé à recruter, former une équipe. Toi, c'est potentiellement une prochaine étape pour toi. Sur quel pas tu mets le focus de tes projets et tout. Et je pense que ça en fait partie aussi, la vision de mon rôle à moi au sein de ce que je suis en train de construire. C'est lequel ? Et clairement, tu vois, moi, par exemple, en construisant tout autour de Thomas Burbidge, ben, par exemple, je m'occulte la possibilité de un jour vendre le truc parce que c'est construit autour de moi et si moi je disparais parce que j'ai vendu, ça n'a plus de sens. Et moi, je suis hyper aligné avec ça et ça me va. Je suis pas dans l'intention de vendre un jour et je suis pas dans la réflexion comme on pourrait l'avoir dans une startup de ah tiens, il y a un problème, je crée une solution et machin et ensuite je le laisse partir et moi je continue avec autre chose. Moi, j'ai vraiment l'aspiration et cette vision de me dire j'ai envie de créer des liens hyper forts avec les gens qui me suivent et de créer des choses qui me permettent de les accompagner là-dedans parce que je sais que quand il y a ce lien-là, ben on pourra faire des choses beaucoup plus grandes que si c'était un truc froid, entre guillemets, avec une autre marque où il n'y a pas forcément de lien humain fort parce que je suis convaincu que ce lien humain apporte aussi des transformations hyper importantes qui ne peuvent que passer par là et ouais. Pas par... une formation en ligne que tu suis avec quelqu'un que tu connais pas parce que y a une vidéo et on voit pas la personne derrière la vidéo, etc., etc. Mm. Mais après, ça, c'est ma vision de la chose et d'autres personnes ont d'autres visions. Il n'y a pas de réalité de c'est comme ça qu'il faut que ça marche et tout. Mais c'est une question d'alignement, quoi.
Ouais.
Et c'est ça le troisième point. Ça dépend trop de la vision qu'on a chacun de à quoi ça ressemble dans le futur.
Ouais. Bah écoute, je pense que là où je te rejoins et c'est pour ça que j'avais eu envie de travailler avec toi dans le cadre de Fleurs d'Avocat, c'est que je pense qu'on a vraiment ce point commun dans la capacité à créer du lien et dans l'intérêt qu'on porte aux personnes qu'on sert. Effectivement, moi je suis dans une logique de problème-solution, mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est les personnes à qui j'apporte ces solutions, donc et le lien que je crée avec ces personnes, etc. Donc du coup, je projette Fleurs d'Avocat. Ben, tu vois, j'ai créé ces formations et je me suis dit, OK, donc là, je vais les passer au e-learning parce qu'il y a le confinement, parce que je commençais aussi à me lasser de. Tu vois, quand tu crées des ateliers, ben après, les ateliers, tu répètes les informations. Enfin, il y a un truc qui est très lié aussi à ton temps et tout, ça me saoulait. Et donc, le confinement est venu un peu accélérer le projet de digitalisation et le passage donc au e-learning des formations. Mais par contre, moi, il a tout de suite été inenvisageable que ce soit juste une formation e-learning et tu te débrouilles, ciao, basta, tu vois. Tout de suite, j'ai voulu intégrer aussi une partie de co-développement, une partie de coaching individuel que je sous-traite à des coachs certifiés. Mais parce que pour moi, c'est important que cette notion de lien se reflète dans les formations. Bien sûr, c'est lié à l'innovation pédagogique, etc., etc. Mais c'est aussi parce que moi, c'est comme ça que j'aime que les choses se fassent, tu vois, dans le lien. Enfin, je veux dire, mes podcasts durent 1 heure et demie, mes newsletters sont longues. Moi, j'aime bien quand les choses durent, quoi. Et donc, mais sauf que en passant au e-learning, alors même que j'avais tout de suite pensé, bah, ce sera du e-learning plus du co-développement plus du coaching individuel. Tu vois, j'avais pas du tout anticipé le fait que, en réalité, en pratique, ça fait que tu fais pas de la masse comme quand tu vends juste un produit e-learning. Tu vois? Et ça, c'est un truc que je suis en train de réaliser, mais c'est pareil, c'est assez récent. Je suis en train de me dire, mais en fait, les objectifs de vente que j'ai pour 2021, je vais avoir un problème structurel d'absorption si je veux les faire avec ces groupes de co-développement et donc cette capacité à suivre mes clients sur le long terme. Et donc, je pense que tu vois, il va falloir déjà quand même que je limite dans le temps. Donc, je pense que la formation sur développement de clientèle, ce sera probablement sur 6 mois. L'accès au groupe de co-développement, tu vois. Ce qui implique que, alors que jusqu'à maintenant, je partais plutôt sur l'idée que la formation, tu la commences quand tu veux, eh bien, en fait, potentiellement, je vais faire des départs, tu vois, un départ chaque mois ou tous les 2 mois. Enfin, tu vois, c'est encore un truc, parce que j'ai un peu ramené, genre, les maths de ce que je veux faire d'un point de vue temps avec. Et donc, ça, c'est une première question. C'est-à-dire que puisque ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens sur le long terme, dans ces cas-là, il faut que je vois comment est-ce que c'est possible par rapport à mon agenda. La deuxième chose, c'est que quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens pour le long terme, mais j'aime surtout créer des projets. Et bon, les formations, c'est une chose. Là, je suis en train de terminer de les implémenter vraiment. Tu vois, j'ai encore des trucs que je suis en train de post-produire, de mettre dans la plateforme de e-learning et tout. Donc, je ne m'autorise pas à dépasser sur 2021 ce projet. Mais 2021, ce sera une année pour vraiment développer, c'est-à-dire vendre ce que j'ai créé auprès de clients et voir comment ça se passe et puis réaménager au fur et à mesure, etc., etc. Ok, mais je sais que je peux, enfin, je crois que je commence à aussi avoir besoin de travailler sur des nouveaux projets et qui sont pas de la formation. Et donc, si je fais que de l'accompagnement, c'est-à-dire si je me transforme en celle qui anime les groupes de co-développement et qui est que dans le lien avec ses clients, ben ça va pas m'aller non plus en vrai, parce que tu vois, j'ai des nouvelles idées de d'autres problèmes liés à la profession sur lesquels j'aimerais bien réfléchir. Et donc, tout ça fait que, voilà, tu me demandais comment je me projette. Je me projette à la fois dans la création de cette structure avec toute cette activité de formation tournée autour d'un lien et d'un lien long terme avec les clients de Fleurs d'Avocat, parce que je pense que c'est quand même ça qui porte les gens dans leur développement professionnel. Des nouveaux projets. Et du coup, pour structurer ça, bah, comme tu disais, et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant de commencer cette interview, mais même avant ça, parce que j'étais curieuse de toi, comment t'avais fait. Parce qu'en fait, tu vois, le podcast et même les formations, parce que du coup, il y a déjà des retours clients, etc., etc. Valoriser cette valeur déjà créée, ça demande un temps dingue. C'est-à-dire que j'ai des heures et des heures d'interviews qui sont inexploitées, alors qu'il y a beaucoup de richesses dedans, à décliner sous plein de formats différents pour la rendre accessible à des personnes qui la voudraient sous un autre, tu vois, sous une autre accroche, un autre format de consommation. J'ai aussi dans la formation des choses qui sont possibles de partager en termes de contenu à partager pour l'audience et là plus d'un point de vue marketing, tu vois ce que je veux dire, marketing et vente. Et tout ça c'est hyper chronophage et en fait je sature complètement de l'hydre que je suis devenue, tu vois, c'est-à-dire l'hydre qui consomme des contenus pour en faire pour en faire de la formation, qui écrit, qui interview, qui post-produit les trucs qu'il met sur Instagram, qui anime les stories Instagram, ce qui n'est pas la même chose que de mettre en feed Instagram, qui anime le LinkedIn, qui échange avec les auditeurs, qui essaye de suivre la partie gestion du truc, même si j'ai une conseillère financière qui en réalité est celle qui fait les analyses du truc, tu vois. Donc tout ça, ça m'épuise beaucoup psychologiquement parlant. Et donc l'idée là, c'est de recruter quelqu'un effectivement qui m'aide sur toute la partie production, production de contenu en fait, et exploitation de la valeur qui est créée. Donc vraiment un profil communication marketing, et d'encadrer ça par une mission de freelance autour de la stratégie de contenu pour en fait que cette personne soit mon deuxième cerveau et plus efficient, parce qu'avec aussi une capacité d'analyse de data, pour voir comment est-ce qu'on réajuste la stratégie de communication et de vente au fur et à mesure, et donc de me décharger de cette partie-là, tu vois. Et moi, de créer, d'être dans ce lien, etc., etc., mais pour décliner, de sous-traiter, j'aime pas, parce que t'as l'impression que le sous-traitant, il est en bas, alors qu'en vrai, tu marches à côté, quoi.
C'est pas du tout le cas.
Mais voilà, de grandir en ce sens-là, parce que, en fait, tout seul, et tu vois, ça m'amène à te dire, on parlait tout à l'heure de la qualification et d'à quel point comment est-ce qu'on se perçoit, l'étiquette qu'on se met d'un point de vue professionnel a un impact sur la manière de se développer professionnellement. Et de la même manière que le fait de ne pas me percevoir comme entrepreneuse pendant longtemps, ça a fait que, tu vois, j'étais un peu dans le déni de cet aspect vente, marketing, enfin tout ça était un peu bisounours. Eh bien, j'ai mis hyper longtemps à me dire, mais en fait, maintenant, je suis arrivée à un stade de développement de mon entreprise qui peut me permettre de réfléchir à des solutions de financement qui ne soient pas que du financement sur trésorerie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, pendant longtemps, j'étais en mode... Ouais. Tu dégages un chiffre d'affaires qui te permet de dégager la marge qui te permet de d'embaucher quelqu'un et de te payer et tout. Puis tu vois, en discutant avec d'autres entrepreneurs, ils m'ont dit mais tu sais, tu peux maintenant aussi avoir confiance dans le fait que tu peux obtenir des financements bancaires pour investir dans ton entreprise, tu vois. Et donc ça, c'est des choses que j'ai mis du temps à m'autoriser à être dans cette démarche de quelque chose de plus professionnel et de moins artisanal et de moins moi dans mon petit coin avec ce que je dégage. Je pense que c'est aussi très lié au rapport des femmes à l'argent et à l'entrepreneuriat, etc. Tu vois, c'est pas que... mais ça a vachement d'impact. Et tu vois, typiquement, ce projet vraiment de développement marketing et communication avec un recrutement et une mission de freelance en parallèle pour structurer cette stratégie, c'est quelque chose que je fais avec un financement bancaire parce que c'est une forme d'investissement dans l'entreprise, tu vois. Et donc, c'est une autre posture. Mais ça a été un délire. Hein. Moi, mon coach, il s'est foutu de ma gueule quand je lui ai raconté comment est-ce que je m'y étais prise pour contacter des banques parce que j'étais chez Conto. Donc, il s'est foutu de ma gueule parce que moi, je suis allée sur les sites des banques, tu vois. Et puis, en fait, il m'a dit, les entrepreneurs, ils se passent juste les coordonnées de leurs banquiers parce que ça marche comme ça, tu vois. J'ai un côté très bisounours sur ces questions-là. Mais bon, je progresse.
Bah, on apprend tous, hein. Et c'est ça, je trouve, qui est incroyable dans cette forme d'activité, c'est que moi, j'ai vraiment la sensation de tous les jours, j'apprends un truc nouveau, je structure différemment, je passe un cap, et je le sens vraiment tous les jours. Genre là, en ce moment, ma grande réflexion et mon grand questionnement, c'est comment j'optimise encore mieux mes processus comptables pour que, quand tu vends 60, 70, 100 places à une formation ou là, mon espace communautaire. T'es pas obligé de te taper toutes les factures individuellement sur ton outil de facturation, mais t'arrives à tout automatiser et ça passe par ce genre de réflexion. Et moi, je suis dans un stade où, comme pour 2021, moi, j'arrête mes missions de freelance en branding et je me focus 100% sur la partie info-business, média-business.
Ouais.
Je suis en train de me dire, OK, bah, j'ai l'impression de, OK, maintenant, je deviens un adulte, ça devient une vraie boîte. Je me focus sur les chiffres mensuels. OK, du coup, si j'ai tant qui rentre, ça veut dire que je peux libérer temps pour déléguer, ouais, comme tu disais, avec la marge et tout. Je peux investir dans des outils qui vont me faciliter telle chose et ça me permettra de remain. Et je, tu vois, c'est des choses que pour l'instant, j'étais vraiment dans plus la casquette, le créateur qui a ses différents formats, qui prend du plaisir à écrire, à enregistrer, à penser, à concevoir. Et là, maintenant, j'ai la part plus CEO, COO, ouais, qui se réveille en mode, OK, maintenant, on va cadrer tout ça.
Ouais.
Le créateur fou, on va le garder un peu sur sa laisse pour l'instant.
Ouais.
On va mettre tout ça clean et après, on le relâchera quand il faudra faire la prochaine chose. Mais c'est hyper intéressant de voir toutes ces briques mouvantes et tout, quoi.
Ah non, mais je te rejoins. Et moi, c'est, enfin, je veux dire, chaque pas mis dans Fleur d'Avocat Incorporation, c'est-à-dire chaque chose qui fait que Fleur d'Avocat est de moins en moins un petit projet et de plus en plus une entreprise solide, enfin voilà, une boîte quoi. Et donc moi je suis de moins en moins une porteuse d'un petit projet, mais de plus en plus une porteuse d'un truc, enfin voilà, qui est solide en fait, qui est solide, qui est crédible, qui a une assise, qui a déjà une notoriété, etc. C'est à chaque fois c'est une mue douloureuse quoi. Enfin c'est parce que après ça rejoint, tu vois, aussi des questions autour de la liberté et de l'engagement et de à quel point c'est enfin toujours plus ou moins facile de se défaire d'un projet en fonction de ton degré d'implication dedans, tu vois. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, moi, ça me coûte énormément. Et donc, ça me coûte énormément souvent parce qu'en fait, tout ça, c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire que, comme tu disais, chaque jour, tu vois la différence. Moi, je vois la différence de Fleur d'Avocat entre aujourd'hui et il y a un mois et il y a 2 mois et il y a 6 mois. Je veux dire, il y a six mois, est-ce que j'avais le crowdfunding ou était sur le point de commencer ou il n'était pas encore fait. Et tu vois, c'est un truc, c'est con, mais pareil sur le passage au e-learning et tout, c'est des changements drastiques de la forme de ton activité qui ont un impact énorme sur ta gestion et la structuration de l'activité. Et finalement, c'est très peu de temps, quoi. Donc,
c'est clair.
Voilà. Mais c'est intéressant d'être alerte sur tous ces changements parce que du coup, ça permet de se remodeler, quoi.
Ouais, et de retrouver l'état d'équilibre de où on est bien et où on va. Il y a un truc que j'avais envie de faire avec toi et on va accepter que ce sera une interview longue parce que c'est un sujet long à décortiquer, ce média business, ces formes-là de où on va tous les deux et qui sont accessibles à d'autres indépendants. D'ailleurs, je voulais réappuyer dessus. Si vous êtes à nous écouter aujourd'hui et que vous êtes aujourd'hui freelance, entre guillemets, dans le sens activité de service, tout ce dont on se parle là, avec Lila Louise, depuis le début, on est seul à le faire. Et moi, c'était même à côté de mon activité de service à la base d'avoir le contenu, puis les formations par-dessus et ainsi de suite. Et je pense que ce que je trouve intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est de se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est diverses manières de développer son activité et c'est accessible dans le sens où on peut se décider de faire ça. Nous deux, ça a commencé par le fait qu'on a développé une audience, on avait une présence média et du coup, on a cette audience, en tout cas les liens qu'on a avec chacune des personnes qui consomment notre contenu, etc., qui est devenue une ressource, entre guillemets, pour nous permettre de dire, bon, bah, on va ouvrir d'autres canaux.
Ouais.
Et du coup, j'étais curieux de savoir, toi qui n'as peut-être pas eu l'expérience concrète de t'as une activité de service et tout, et du coup, tu réfléchirais via ça. Pour les gens qui nous écoutent, à ton avis, c'est quoi une bonne question, une bonne réflexion à avoir de se dire, bah, aujourd'hui, je suis basé sur une activité de service? Mais ça me parle, ça m'inspire ce dont ils se parlent, Lila Louise et Thomas. À ton avis, c'est quoi la réflexion qu'ils devraient avoir pour intégrer un peu cette partie média, cette partie formation, cette partie monétisation autour d'une audience?
Je pense que, en fait, du coup, le média, tu peux utiliser un média pour plusieurs stratégies de développement. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, le podcast, tu peux avoir un podcast d'expertise où tu partages ton expertise pour faire connaître ton expertise auprès de ta clientèle cible. De la même manière que tu peux avoir un média qui est plus un média de rencontre où tu vas à la rencontre de tes homologues et donc finalement c'est du réseautage et puis d'autres formes encore de développement plus des choses de marque enfin bref et donc en fait la question c'est aussi tu vois qu'est-ce que tu veux mettre en avant et qu'est-ce qui peut te plaire c'est-à-dire que tu vois, moi, Fleur d'avocat, ça a commencé... Je m'interrogeais sur le bien-être au travail dans la profession d'avocat. C'était avant tout développement de business. Donc, du coup, ça s'est transformé en interview d'avocat épanoui. Et c'est super. Ça m'a permis de créer du lien. J'ai rencontré des personnes formidables. J'adore l'exercice de l'interview. J'y prends énormément de plaisir. Voilà, ça a été la constitution d'une communauté formidable, mais c'est pas le meilleur médium pour vendre mes formations, parce qu'en fait, j'y parle assez peu de ce qu'on fait en formation. De temps en temps, je dis ah ben tiens, ça c'est un point qu'on voit dans telle formation et tout, parce que je me force un petit peu aussi à, tu vois, à faire en sorte que les gens qui écoutent les interviews sachent que je fais pas que du média, mais c'est pas le bon moyen pour parler de l'expertise qui est amenée dans la prestation de service que je vends. Je continue parce que ça me sert à d'autres choses, ça sert à faire connaître la marque Fleur d'avocat auprès de mon public, auprès de plus de public, ça me sert à rencontrer des personnes, encore une fois ça me sert juste à prendre du plaisir, ce qui est pas anodin. Mais là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à un nouveau type de contenu pour le podcast Fleur d'avocat qui soit plus axé sur l'expertise. Et donc, aux prestataires de services qui voudraient développer une activité média, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer comme type de média ? Et ou la question du plaisir pur, si ils peuvent se le permettre, ou si c'est un axe de développement vraiment intentionnel et stratégique, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent réseauter ? Est-ce qu'ils veulent montrer ce qu'ils savent faire, etc. Et en fait, de ça va découler finalement
l'idée, la forme.
Et la forme. Moi, je discutais avec une avocate. Je vais pas poursuivre avec cet exemple. mais tu vois, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des formats, par exemple, je trouve que le podcast, c'est pas du tout adapté pour tous les formats qui demandent du visuel. C'est-à-dire que tout ce qui est graphisme et tout, moi, j'ai besoin de voir. Pour ça, il faut YouTube, tu vois. Et je pense, par exemple, il y a un podcast que j'avais commencé à écouter sur plein d'informations en UX, en expérience utilisateur. Mais en fait, tu vois, le type, il parle de plein de trucs. Moi, j'aimerais bien voir l'écran, tu vois, de quoi il parle, en fait, de quel type de bouton il parle, de quelle est la rapidité d'exécution de telle page, comment c'est présenté et tout. En fait, quand c'est juste quelque chose qui t'est dit à l'oral, ça manque vachement d'incarnation. Et donc voilà, le format, ensuite, il se décline en fonction du contenu. Est-ce que ça va être un article écrit ? Est-ce que ça va être de l'infographie ? Est-ce que ça va être de la narration parce que ça s'y prête ? De l'interview courte, de l'interview longue ? Tu n'obtiens pas les mêmes choses dans une interview courte que dans une interview longue. Est-ce que si c'est du contenu d'expertise, pareil, du long ou du court, c'est pas la même chose ? Donc voilà, je sais pas si je réponds à ta question, mais effectivement, je pense que c'est ou une question de plaisir. J'ai la liberté de juste faire ce que je veux, et dans ces cas-là, ben si je pense que je prendrais du plaisir à faire des interviews, ou si je pense que je prendrais du plaisir à faire des dessins, ou si je pense que je prendrais du plaisir à faire de la vidéo, ben commencez par faire ce qui vous fait kiffer, parce que c'est quand même la meilleure manière de pas planter votre projet. Ouais. Et s'il y a une intention un petit peu plus stratégique derrière, ben ça devient du coup, qu'est-ce que je veux faire exactement et quel est le média le plus adapté et qu'est-ce que l'audience que je veux toucher sera le plus à même d'entendre, tu vois, c'est aussi encore un autre sujet, c'est-à-dire, mais ça va avec la question plus stratégique, et là on en revient à finalement de la stratégie de marketing de contenu, hein. Moi je suis pas une experte du sujet, même si je commence quand même à avoir pas mal de connaissances. Mais c'est des questions de comment est-ce qu'on déploie le contenu approprié par rapport à ce qu'on veut mettre en place, aux personnes qu'on veut toucher et aux messages qu'on veut faire passer.
Ouais. Moi, ce que je trouve hyper intéressant à le vivre concrètement dans l'activité et à développer tout l'apprentissage autour et tout, c'est de voir à quel point toutes les briques médias que je mets en place, que ce soit ce podcast ou en déclinant en vidéo sur la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux ou la newsletter, etc., c'est en fait comme des mini-moi qui travaillent à ma place la nuit.
Oui.
Tu vois ?
Oui, oui.
Il y a des gens qui vont découvrir le podcast, ils vont peut-être le découvrir via toi maintenant.
Ouais.
Il y a 65 heures où ils vont pouvoir me rencontrer moi pendant 65 heures et avoir plus de vues sur ma manière de penser, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, etc. Et ça, c'est un effet de levier qui est incroyable pour n'importe qui, effectivement, quand tu l'orientes dans le bon sens.
Ouais.
Et pour nous deux, je pense que notre podcast, c'est surtout un outil de création de liens, ouais, et aussi d'apprentissage, où en gros, ce que les gens apprennent de toi, comme c'est moi qui leur apporte via ce podcast, ils l'infèrent aussi quelque part à moi. Et vice-versa, toi, avec les avocats aussi, ça se raccroche à toi. Je crois que c'est un biais psychologique qui s'appelle l'effet d'aura ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais...
L'aura.
Mais... Ouais, exactement.
Ouais, non, mais carrément. Moi, ça me fait toujours rire quand je reçois des demandes de connexion LinkedIn ou des messages sur Instagram ou autre de personnes qui viennent juste de découvrir et qui sont en train de binge ouais, écouter le podcast. Et c'est marrant parce que tu dis, ouf, là, c'est tu vois, c'est Lila Louise il y a un an et demi et ils sont en train d'écouter. Et moi, ça me fait rire aussi quand je découvre des nouveaux podcasts et que tu vois, je me retrouve à, en général, je commence depuis le début parce que du coup, j'ai l'impression d'un peu rattraper l'évolution et tout, mais c'est sûr, la beauté du contenu, quel que soit le type de blog, c'est quand même que du coup c'est de la création de valeur qui dure et qui donc devient un travail, devient une richesse passive, quoi,
ouais,
une sorte de revenu passif, en l'occurrence un revenu d'influence passif. Enfin, c'est
grave,
c'est vrai
grave,
que c'est chouette.
Et je pense qu'on peut l'appliquer à plein de choses, comme tu le disais, autant sur créer du lien avec les gens avec qui on veut créer du lien, que sur notre expertise, que sur l'éducation de nos clients. Genre, un exemple qu'on a pris plusieurs fois dans le podcast, dans les épisodes passés, c'est s'il y a un truc que tu répètes à chaque fois que tu rencontres un client, bah, créer un contenu qui te permet d'arrêter de le répéter,
ouais,
et reprend le pouvoir sur ton temps, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et rien que ça, c'est hyper, ça peut faire une énorme différence où tu peux gagner des journées à l'échelle d'un mois parce que juste tu parles tout le temps de la même chose avec tout le monde.
C'est clair, c'est clair. Et puis tu l'avais interviewé d'ailleurs, je me demande si c'est pas la première interview que j'ai écoutée d'elle, mais moi celle que je trouve formidable en termes de création de contenu, c'est Laetitia Bouloc, la graphiste.
Ouais.
Qui a plusieurs contenus qui elle a des trucs où elle rebrande des logos et du coup c'est une démonstration de savoir-faire. Elle a des trucs qui sont très pédagogiques sur en quoi consiste mon métier. Elle a des conseils où plus elle montre aux gens, elle explique aux gens comment faire ce qu'elle fait, les outils qu'elle utilise et tout. Et en fait, ça, c'est possible de le dérouler sur n'importe quel métier, en fait, et notamment métier intellectuel, quand il pense. Et moi, c'est une fille que je cite souvent en exemple et je trouve que ce qu'elle fait est formidable. En plus, elle le fait avec humour et avec une patte bien à elle qui est top. Mais en fait, c'est la capacité de création de contenu. Quand tu regardes ton activité, et je pense que toi et moi, on est pareil là-dessus. C'est-à-dire que moi, mon contenu, il est créé. Alors bien sûr, il y a toute la partie podcast qui est créée le podcast, les interviews. Mais pour la partie newsletter que tu as évoquée un peu plus tôt, c'est je parle de trucs que je vis, quoi. Enfin, tu vois, je parle. Ouais. Tu vois, là, la newsletter de ce soir, c'est une réflexion qui est issue de un message qui m'a été envoyé par une de mes clientes. Et la newsletter d'il y a deux semaines, c'était une réflexion qui a émergé en groupe de co-développement. Et puis d'autres fois, ça va être une discussion que j'ai eue avec mon coach et qui m'a fait, qui m'a fait bouger. Et donc, je la partage. Ça peut être, tu vois, mais en fait, c'est ma vie que je transforme
en conflit.
Donc, après, on revient sur la discussion tout à l'heure sur l'aspect un peu Gollum du truc, mais Mais et je pense honnêtement que, mais le fait est que du coup c'est au service de mon activité parce que je, ce que je vends c'est des choses qui sont liées au développement professionnel, c'est-à-dire il y a à la fois de la réflexion en développement personnel et à la fois de la réflexion beaucoup plus business. Mais si j'étais encore avocate, exactement comme tu le disais, c'est-à-dire que tu peux faire un média où tu partages de l'expertise sur ben moi c'était du droit pharmaceutique, donc de l'expertise en droit pharmaceutique. Tu peux faire un média où tu partages où tu vas rencontrer plusieurs acteurs du monde du droit et notamment intervenants de qui interviennent en matière de droit pharmaceutique. Tu peux, enfin je veux dire, il y a mille manières de recycler ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce que tu dis à tes clients pour leur expliquer comment ça va se passer telle ou telle chose. Enfin, je veux dire, c'est n'importe qui, en observant un petit peu ce qu'il fait dans son activité au quotidien, peut trouver de quoi en faire un contenu partageable, en fait. C'est ça qui est assez formidable.
Et je pense que c'est ce truc un peu infini auquel on touche tous les deux quand on se dit « Waouh, on pourrait faire tellement de choses. »
Ouais, c'est flippant.
Et c'est limité pour notre personne physique. Ouais. Quoi. Et on a besoin de faire évoluer les choses. Et je pense qu'il y a, quand tu touches à ça, tu commences à le voir partout, effectivement, comme tu dis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne touchent pas à ça et qui ont l'impression de « Merde, je peux pas aller plus loin parce que j'ai mon plafond de temps et j'ai plus de temps et je cours et c'est terminé, quoi. Je vais arriver en haut. » Et clairement, je pense que quand tu commences à mettre un peu les doigts dans ces enrouages de la partie média, la partie peut-être formation, la partie peut-être... Enfin, voilà, toutes ces choses-là que nous, on structure au centre de nos activités, tu commences à voir « Ah ouais, en fait... There's so much more. »
Mais d'où le développement de nouveaux métiers et de personnes qui sont en fait des assistants créateurs de contenu, parce que du coup ça permet de dupliquer et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus, j'ai oublié, mais ouais, j'ai oublié, peu importe, ça devait pas être très important.
Bon, ça reviendra peut-être. On va arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode, Ida Louise. Même si je pense on aurait pu presque durer une journée à parler de tous les rouages de tous ces trucs. Chaque fois, on a des conversations qui s'éternisent parce que c'est trop stimulant, quoi. Moi, j'aime trop discuter avec toi tout ça. Mais du coup, on va venir sur première question rituelle de fin. C'est quoi, à ton sens, dans le développement de Fleur d'Avocat depuis que tu es indépendante, la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu l'as dépassée?
La plus grosse galère que j'ai vécue?
Ouais.
J'en sais rien. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de galères. Tu vois, je te mentionnais tout à l'heure travailler avec les bonnes personnes, c'est une galère. C'est une galère... Et tu vois, une galère, je sais pas si c'est la plus grosse, mais tu vois, ça a été une galère de ce début d'année là. Un coach, c'est pas la même chose qu'un formateur. En fait, il y a le fait d'être capable d'accompagner quelqu'un dans son cheminement personnel et de le challenger, etc., etc., de faire émerger les solutions de la personne, c'est pas la même chose que de transmettre une méthode et des informations qui sont que la personne ensuite peut s'approprier. Et ça, tu vois, je m'en suis rendu compte en septembre et donc ça implique une adaptation quant aux personnes avec qui tu travailles et moi ça m'a amené finalement à reporter la création d'une des formations, enfin en tout cas son passage en e-learning. Et ça a été dur, quoi, parce que tu vois c'est un peu ouais, c'est dur c'est dur après dans le rapport à l'autre d'expliquer à l'autre que potentiellement tu t'es trompé, que tu l'as fait travailler, mais du coup que tu l'as mal fait travailler. Enfin, et en fait c'est juste toi, quoi, comme à gérer l'identification de la personne pertinente et ensuite le management de la personne dans le fait de délivrer l'information. Donc voilà. Après moi, comment je l'ai dépassé, en faisant preuve, je pense, d'une très très grande humilité auprès des personnes concernées, quoi, en leur disant que j'étais vraiment désolée, mais que enfin voilà, que je m'étais rendu compte que j'avais besoin d'intervenir plus dans le processus de création de la formation, parce que ils ont l'expertise, mais en fait c'est pas la même chose que la transmission. Et ouais, pour le coup, grave. Je pense que je suis assez bonne finalement en transmission d'information, donc voilà, ça a été une difficulté, mais j'ai envie de te dire qu'il y en a eu mille, quoi. Il y en a eu mille, parce que heureusement je les oublie, mais si je reprenais mon agenda, je verrais tous les trucs. Mon agenda, c'est mon agenda. Il y a autant d'émotionnel que de rationnel dans mon agenda. Et il y a des espèces de moments où je mets des espèces de nuages noirs, et puis il y a des moments où je mets des grands cœurs et tout. Et voilà, tu le...
Mais je pense que c'est aussi inhérent au fait que, comme on disait tout à l'heure, tout change tellement vite dans notre développement à tous les deux sur cette format-là que... Ben, nécessairement, t'as plein de galères qui s'enchaînent, et du coup, comme t'en as des nouvelles ou des nouvelles grandes victoires aussi, ben, les autres s'effacent petit à petit, et ça fait partie du chemin. Et je pense que c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça montre que ben, un truc qu'on vit sur le moment présent comme ultra difficile et challengeant, on sait, enfin moi en tout cas, je sens que je sais, ok, dans 3 mois, j'aurais complètement oublié, je saurais même plus que j'ai traversé ça, parce que j'aurais des nouvelles choses et des nouvelles victoires, et c'est juste... Ok, c'est maintenant je dois gérer ça, c'est le prochain pas. Comment je fais pour le gérer ? Et je sais que ça disparaîtra à terme.
Ouais, ben c'est drôle parce que c'est ce que me disait mon coach. Il me dit, mais tu à chaque fois tu te lances dans des trucs et t'es là, tu à geindre que tu n'y arriveras jamais, que ça te saoule. Tu vois, j'ai fait un audit qualité, ça a été un enfer. Tu vois, j'ai tout sauf un profil d'audit qualité, de responsable qualité. Et alors que je fais de la qualité, je l'affirme, mais bon, c'est encore un autre métier que d'être responsable qualité, ouais, pour une boîte qui peut être auditable. Et puis avant ça, il y a eu le crowdfunding qui a été quand même tout un délire. Enfin voilà. Et puis encore avant, il y a eu d'autres trucs. Enfin. Et en fait, et il me disait, et voilà, et puis en fait, à chaque fois, tu t'en sors, et puis ensuite, t'oublies, et donc, voilà. Donc maintenant, c'est sûr, tu vois, en ce moment, là, j'ai cette espèce de truc pénible de post-production des formations, où tous les matins, quand je me dis que j'ai encore une vidéo, tu vois, je t'ai montré les PowerPoints tout à l'heure, ça donne juste envie de, je sais pas, se jeter à la fenêtre, et voilà, et puis en fait ça passe, donc effectivement c'est ce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est pénible, il y a plein de trucs hyper pénibles, et voilà, il y a plein de difficultés qui sont hyper reloues, mais ensuite ça le passe, et puis on est content parce que...
Grave, comme des nuages,
ouais.
Moi je vois un peu ça comme des nuages, tu vois, c'est la météo.
Ouais, comme des nuages, ouais.
On peut pas contrôler la météo.
On va dire ça comme ça.
Bon, on essaiera d'ancrer un peu plus ça par la suite.
Ah, attends, ça y est, je me souviens. Pardon, je viens d'avoir un éclair de lumière. Je me souviens de ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à la... Tu disais, chacun, on peut observer dans son quotidien de quoi créer du contenu et que ça rend un peu fou. Eh bien, dans le rapport à la confiance en soi, tu sais, il y a le fait d'arriver à se percevoir dans le regard des autres et d'obtenir finalement du feedback, parce que c'est là que tu arrives à voir un regard valorisant sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Et je trouve que le feedback, comme qu'est-ce que tu peux faire comme contenu, eh bien, en tout cas, le fait de choper des informations sur soi de l'extérieur, comme le fait d'identifier dans son quotidien ce qui potentiellement peut être à l'origine d'un contenu, eh bien, c'est pareil. À partir du moment où tu commences à choper le truc, tu vois du feedback partout. Et en fait, moi, j'invite vachement mes clients et tous nos auditeurs par la même occasion à noter tous les petits retours que vous avez et aussi à aller les chercher. Parce que c'est pas juste pour se caresser dans le sens du poil le matin en se disant « Ah là là, qu'est-ce que je suis formidable !»
Non, c'est des ressources de ouf.
Mais c'est des ressources de ouf, déjà, un, pour partager et pour, enfin tu vois, pour en faire des trucs qui vont donner confiance aux autres de travailler avec soi, mais aussi pour soi mieux appréhender qu'est-ce qui fait que... quelles sont nos forces, quoi. Qu'est-ce que...
Ouais.
Et donc, habituez-vous, mais c'est une habitude à prendre que d'entendre les retours. Et d'entendre autant les retours positifs que les retours négatifs, d'ailleurs. C'est une habitude à prendre que d'avoir les antennes frémissent quand il y a un truc qui en fait constitue un retour. Tu vois, par exemple, là dans la formation, j'ai une des clientes qui a dit « j'ai pas encore fini tel chapitre parce que en fait, je vois qu'il y a 2 heures de contenu ». Je suis là « mais 2 heures ?» Et elle dit « bah oui, parce qu'il y a la vidéo d'explication, puis ensuite il y a toutes les ressources complémentaires et donc tout mis bout à bout, ça fait 2 heures ». Et donc là, je me suis dit « ah non, mais résultat, c'est antiproductif parce que voilà, alors que c'est des ressources complémentaires s'ils veulent creuser après ou voilà ». Mais tu vois, je me suis dit, note à moi-même, ça c'est un feedback, ça veut dire que potentiellement c'est trop imposant, c'est trop intimidant au moment de commencer, et donc il faut que je revoie la présentation dans le site de manière à ce que ce soit vraiment valorisé comme une ressource complémentaire et pas centrale, et donc que ça ne bloque pas les personnes dans l'avancée de leur formation. Donc ça, c'est un feedback sur le contenu de mon travail, mais ça peut être aussi un feedback sur moi. Tu vois, j'ai fait une intervention hier dans une école et j'ai un étudiant qui m'a écrit pour me dire ça reste entre nous, mais je pense que l'école n'écoutera pas cette interview, donc tout va bien. Mais c'était hyper énergisant, dynamisant. C'était l'intervention la plus dynamique qu'on ait eue de toute l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les qualificatifs de dynamique, énergie, c'est des qualificatifs qui reviennent souvent dans ce qu'on me dit. Enfin, tu vois. Et donc à force, tu vois, ça te permet de construire un petit peu. Bah tiens, qu'est-ce qui constitue un peu ce que les gens, qu'est-ce qui touche les gens dans mon
perçoivent
approche
de moi, quoi.
Et voilà. Bref, c'est ça que je voulais dire, qui est complémentaire à. Donc là, c'est plus sur le rapport à soi et donc aussi sur la confiance en soi après à terme, quoi. Mais pardon, c'était un peu décousu comme propos, mais voilà.
Non, c'est top, c'est hyper intéressant de créer ces feedback loops aussi. Et j'ai l'impression que le contenu, ça permet aussi ça.
Oui.
C'est-à-dire, il y a un conseil qui revient tout le temps dans l'entrepreneuriat et que je partage moi aussi dans les réflexions sur les offres, c'est va échanger avec ton marché, va te frotter à la réalité du terrain, va voir concrètement ce qui se passe chez tes clients. Et en créant du contenu, ça te permet d'attirer encore plus de cette matière première, entre guillemets, qui te permet de créer par la suite autant de la formation que de recréer du contenu, que de réadapter ton approche et ta posture sur ce que les gens adorent chez toi et du coup ce qui est une force pour toi et ainsi de suite. Donc trop cool d'avoir ce retour. Je vais enchaîner sur la question d'après pour continuer. C'est si t'étais face à Lila Louise à son tout premier jour d'indépendante, je te laisse choisir si c'est au tout début du podcast ou au moment où tu commences à te sentir indépendante et monétisée. Ce serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même?
De beaucoup plus rapidement assumer que je suis une entrepreneuse et donc de me former comme telle. Et donc de trouver une formation pour m'aider dans l'entrepreneuriat. De plus rapidement m'affirmer dans ma posture d'entrepreneuse. Je pourrais me conseiller aussi de me faire coacher, mais c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma reconversion et donc c'est ce que je recommande à tout le monde. Je me le recommande à moi-même de refaire ça. C'était une bonne chose.
Et qu'est-ce que du coup t'as en tête pour tu lui dis genre affirme-toi plus? Est-ce que t'as une pratique ou une réflexion ou un truc qui pourrait la soutenir là-dedans?
Je sais pas. C'est peut-être même pas, tu vois, c'est plus je pense que c'est plus sur
prends conscience,
le
quoi.
Fait d'admettre que ce que tu fais c'est de l'entrepreneuriat, quoi, tu vois, c'est, et il y a pas de c'est ni moins bien ni mieux. C'est juste de l'entrepreneuriat et que ben manifestement le fait de trouver un taf quelque part c'est pas le projet si t'es un peu honnête avec toi-même. Et donc et donc, si le projet, c'est fleur d'avocat, c'est de l'entrepreneuriat. Et donc, tu es une entrepreneuse. Et donc,
let's go.
Voilà, ouais.
OK, trop cool. Let's go pour ceux qui nous écoutent et qui ne se sentent pas encore entrepreneurs non plus, alors. et la dernière, qui est ma question préférée, si tu as une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils réfléchissent à leur activité ou leur vie d'indépendant, ce serait quoi la question?
Eh bien, je pense que la question, ce serait vraiment est-ce que vous savez quelle perception ont de vous votre audience? la grammaire n'allait pas du tout. Quelle perception votre audience a-t-elle de vous? Et donc, si vous n'avez pas encore une audience large, c'est pas grave, mais déjà, votre audience, ça peut être vos amis, votre famille. Et de s'interroger sur cette perception, vos clients, bien évidemment, vos anciens collègues. Et je trouve que ça apprend beaucoup.
Grave.
De mieux cerner comment les gens nous perçoivent et apprendre avec des pincettes. Encore une fois, en fait, c'est ni bien ni mal, mais au moins le savoir, quoi.
C'est clair. C'est un peu la réflexion qu'il y a derrière une marque. J'aime bien, pour parler de ce que c'est une marque, Jeff Bezos de Amazon, il dit « Ta marque, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce.
Ouais. »
Et donc, c'est leur perception de toi, quoi. Et en final, en tant que freelance, c'est ça que tu vends. Tu vends ce que les gens pensent de toi quand t'es pas dans la pièce. Et du coup, tu dois aider à construire le fait que cette perception, ce soit vraiment en raccord avec ton expertise et ce soit vraiment en raccord avec qui t'es. Et comment tu combles le gap, autant avec du contenu qu'en parlant mieux de comment tu es, de ce que tu fais, de ce qui est important pour toi et de ce qui t'intéresse. Et je pense qu'il y a plein de problèmes ou de frustrations dans l'entrepreneuriat au sens large et dans l'indépendance qui viennent du fait que ça soit déconnecté. Que la perception n'est pas vraiment égale à ce qu'on a envie d'incarner et qui on est vraiment.
Quoi. Ouais, mais cette déconnexion, tu peux pas mesurer cette déconnexion tant que tu n'as pas conscience de cette perception à l'extérieur. Et tu vois, tu disais oui, les marques et tout et l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même toute personne en fait.
Ouais, voilà, bah, on est tous une marque quelque part.
Marque, voilà. Après, ça rejoint les réflexions sur la marque personnelle, etc. Mais c'est sûr que c'est... Et tu vois, c'est... Enfin, désolée, je suis beaucoup trop bavarde, mais...
Non, c'est top, j'adore.
Par exemple, j'ai aussi mis longtemps à accepter que les gens... que des gens parlaient de moi, tu vois. Et ça rejoint le Lila Louise versus Lila Louise Maréchaux de Fleur d'Avocat, tu vois. Quand quelqu'un me dit « Ah ben tiens, à telle soirée, entre avocats, machin, il y a je sais pas qui a parlé de toi et tout. » Moi, c'est... voilà, je sais pas, il y a un truc, tu vois, c'est à la fois flatteur, ça veut dire que ton travail rayonne et circule et voyage et c'est cool. Et à la fois, parfois, je suis un peu là genre « Mais...
» Ouais, je comprends, voilà. Je comprends. Et ça demande beaucoup de lâcher prise aussi sur vouloir savoir, parce qu'à un moment donné, tu peux pas en fait. Je pense que plus tu développes une audience et des gens qui te suivent et ainsi de suite, plus ça se passe et t'en as pas conscience. Et du coup, si tu essaies de maîtriser tout ce qui se dit sur toi, c'est plus possible. Il faut vraiment avoir un lâcher prise là-dessus à terme, je trouve.
Ouais, exactement.
Trop intéressant. Merci pour tout ça. Merci pour tout ça, Lila Louise Maréchaux de Fleur d'Avocat. je me permets de t'appeler comme ça pour la fin. Si les gens veulent discuter avec toi, avec celui de tes personas que tu choisis, où est-ce qu'on les envoie pour discuter avec toi et suivre ton travail?
Eh bien, ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Je suis aussi sur Instagram, @fleurdavocat tout attaché. Sur Twitter, c'est maréchauxl, je crois. Par email, bonjour@fleurdavocat.fr. Je donne pas mon adresse postale, mais en vrai, vous pouvez la trouver. Et bon, j'avoue, si quelqu'un veut m'envoyer une lettre manuscrite, j'adore les lettres manuscrites, donc faites-vous plaisir. voilà.
et puis le podcast du nom de Fleur d'Avocat.
Bien évidemment,
aussi
le podcast éponyme Fleur d'Avocat que vous pouvez découvrir si vous avez envie d'écouter des avocats épanouis partager leur parcours professionnel.
Top. Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens sur la petite page web de l'épisode de toute façon, donc tout le monde peut le retrouver là.
Merci
Lila Louise.
Merci à toi.
C'était très cool.
C'était un plaisir comme d'habitude.
Grave, trop cool. Merci, ciao. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et t'as dû le sentir dans la discussion avec Lila Louise. Je crois qu'on pourrait se parler pendant des heures et des heures de tout ça. À chaque fois qu'on est au téléphone ensemble ou en visio ensemble, nos cerveaux se mettent à bouillonner sur plein de nouvelles idées et plein de nouvelles manières d'être au service de ceux qu'on souhaite et ceux qu'on aime accompagner dans leur vie et dans leurs activités. Pour elle, les avocats, pour moi, c'est toi et les freelances et les entrepreneurs indépendants. Et c'est un vrai plaisir d'imaginer la suite avec elle, de brainstormer, et j'espère que tu l'as senti en prenant part à cette discussion. mais aussi que ça t'a permis d'imaginer d'autres choses pour toi et ton business. Si t'as déjà cette brique média dans ton activité, peut-être que ça t'a fait réfléchir à une nouvelle vision de la direction que tu donnes à tout ça dans son ensemble, au-delà de tes prestations de service. Et si tu ne créais pas encore de contenu, si tu n'as pas encore la brique média, j'imagine que ça t'a donné un nouveau regard sur tout l'envers du décor de cette forme de développement de ton activité et le rôle que ça joue dans le développement et ouais, toutes les coulisses. Mais j'espère en tout cas que ça t'a fait réfléchir. De mon côté, je m'en tiens là pour aujourd'hui, c'était un épisode long. Mais si tu souhaites continuer la discussion sur ce sujet et sur le reste de ta vie d'indépendant, je t'invite vivement à nous rejoindre dans la newsletter en te rendant sur thomasburbidge.com/newsletter, parce que c'est là où je partage vraiment toutes mes réflexions et toutes mes clés pour t'accompagner dans ton aventure. C'est un peu la manière dont tu accèdes à tout ce qu'il y a dans mon cerveau. Et aussi pour m'aider à diffuser ces conseils à d'autres personnes, comme nous, comme toi, comme moi, et les aider à grandir. Tu peux également mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur iTunes, et partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Et n'oublie pas de me taguer quand tu le fais pour que je puisse te remercier d'avoir participé à ce qu'on est en train de construire ensemble. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.